VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Élection en Afrique du Sud, la victoire de l'ANC, le Congrès national africain au pouvoir depuis 1994 aux législatives de mercredi, se confirme de plus en plus aujourd'hui, mais avec un score en net recul. Au terme d'une deuxième longue nuit de dépouillement, l'ANC est en tête avec 57,2% des suffrages. De Johannesburg, notre correspondante Patricia Huon.
Pas de naufrage, mais pas de quoi triompher non plus. Le Congrès national africain, l'ANC, conserve comme prévu sa majorité au Parlement. Cela veut donc dire que le président Cyril Ramaphosa est certain d'être réélu par les députés le 22 mai. Le dépouillement des bureaux est toujours en cours, avec plus de trois quarts des voix qui ont été comptabilisées. L'ANC obtient 57% des suffrages. C'est le score le plus faible jamais obtenu par le parti pour une élection nationale depuis son arrivée au pouvoir en 1994. L'ANC limite donc les dégâts, mais le renouveau promis par le président Cyril Ramaphosa n'aura pas suffi à enrayer la chute de l'ancien mouvement de la lutte contre l'apartheid. L'opposition continue de grignoter son électorat, sans pour autant effectuer de percées. L'Alliance démocratique obtient un peu moins de 22% des voix, plus ou moins le même score qu'en 2014. Le parti de Julius Malema obtient quant à lui 10% et s'impose comme la troisième force politique du pays. A noter aussi une participation assez faible, environ 65%, preuve que ce scrutin n'a pas enthousiasmé les Sud-Africains. Patricia Lyon, Johannesburg, Lyon et Afrique.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel, l'armée française a libéré 4 otages, 2 Français, une Américaine et une Sud-Coréenne, lors d'une opération complexe dans le nord du Burkina Faso, dans la nuit de jeudi à vendredi, au cours de laquelle 2 militaires français ont été tués. Les 2 captifs français libérés, Patrick Pic et Laurent Lassimouyas, avaient été enlevés le 1er mai au Bénin. Dans un communiqué, le général François Lecointre, chef d'état-major des armées, précise que l'opération audacieuse ayant abouti à la libération des otages a été rendue possible par la mobilisation des moyens du Barkhane, la force française de 4500 hommes déployés au Sahel, l'implication des forces burkinabées et le soutien américain en renseignement. Toujours concernant la lutte contre les djihadistes en Afrique de l'Ouest, au Nigeria, près de 900 enfants des milices civiles participant à la campagne contre Boko Haram ont été démobilisés aujourd'hui à Maïdougouri, chef-lieu de l'État de Borno, épicentre de l'insurrection islamiste. C'est ce qu'a annoncé l'UNICEF. L'Agence onusienne de protection de l'enfance précise qu'un total de 894 enfants, dont 106 filles, ont été retirés des rangs de la force civile créée en 2013 pour protéger les populations en coopération avec l'armée contre les attaques du groupe djihadiste dans le nord-est du pays. Et toujours concernant le Nigeria, dans le nord du pays, l'émirat de Kano a été divisé en 5 par les autorités locales. Cette décision réduit les pouvoirs de l'émir actuel, Mohamedou Sanusi II, l'une des figures traditionnelles les plus influentes du pays. Sanusi II, ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, ne dispose en théorie d'aucun pouvoir politique, mais sa campagne pour des réformes sociales et ses critiques contre la polygamie et les familles qui ont beaucoup d'enfants sans les moyens de les élever ont provoqué la colère des musulmans conservateurs. Au micro d'Idriss Fall, les explications de notre confrère nigérian Adam Aboubakar Gwazo.
Avant les élections, le gouverneur et l'émir de Kano avaient eu des problèmes. Selon le gouverneur, l'émir de Kano ne soutient pas le parti politique au pouvoir. Donc l'émir de Kano a démenti qu'il est neutre. Selon lui, il veut que le peuple choisisse le choix. Depuis ce temps, ça ne va pas, il y avait des pourparlers. Donc quand le gouverneur maintenant a réussi à avoir le mandat du peuple maintenant, lui-même il a voulu faire une revanche, c'est de créer 4 émirats dans l'état de Kano pour pouvoir cacher l'émir de Kano Mohamed Sanusi.
Donc il a créé 5 émirats. Quel est l'effet de cette décision sur l'émirat de Kano?
Non mais tu sais, il a créé 4, pas 5. Il a créé 4 émirats. Comme celui de Kano existait déjà, il a créé Gaya, Renault, Karaye et Bichi. Donc il a créé 4 émirats plus celui de Kano qui existait. Donc c'est une manière de cacher le gouverneur Sanusi Mohamed Lamido pour pouvoir avoir aussi d'autres émirés, comme l'émirat de Kano, c'est le seul émirat qui couvre les 44 arrondissements de Kano. Maintenant, l'émirat de Kano, Mohamed Sunusi, va s'occuper de 10 arrondissements de Kano et d'autres vont partager les autres arrondissements.
Le Mohamedou Sanusi, il faut le rappeler, c'est l'ancien gouverneur de la Banque centrale. C'est un intellectuel musulman qui a aussi des positions très claires sur la polygamie et le nombre des enfants.
De temps en temps, où Mohamed Sunusi parle, le gouvernement de Kano n'a jamais été avec lui. Donc, si vous vous rappelez même le temps qu'il a parlé de la polygamie, le temps qu'il a parlé de la justice, le gouvernement de Kano a toujours eu des problèmes avec lui. C'est même pas pour la première fois. L'année passée, le gouvernement de Kano a voulu même l'enlever en créant des allégations sur lui de corruption. Donc, de l'autre côté, ça n'a pas marché avec l'intervention, selon le gouvernement, avec l'intervention des leaders de Kano. Donc, maintenant, le gouvernement de Kano continue la guerre avec Mohamedou Sunusi, parce que selon le gouverneur, Mohamedou Sunusi n'a jamais respecté l'autorité locale de Kano.
Ça va aller vers où, tout ça?
Il va nommer d'autres émirs le vendredi. Donc, comme déjà, la constitution lui a permis maintenant de nommer 4 émirs, plus Sunusi qui est le 5e déjà. Donc, il va nommer les 4 le vendredi. Jeudi, il va les nommer parce que déjà l'Assemblée locale a passé la loi et puis lui-même il a signé la loi. Donc déjà constitutionnellement il a le droit, il va nommer les 4 émirs.
Le gouverneur est soutenu par tous les musulmans conservateurs.
Oui, mais le gouverneur lui est soutenu par sa position. De l'autre côté aussi, d'autres soutiennent aussi Mohamedou Sunusi. Il y a les marches pacifiques des jeunes, il y a des marches pacifiques dans la ville de Kano, ceux qui soutiennent Mohamedou Sunusi.
Notre confrère Adam Aboubakar Gwazo à Kano, la métropole du nord du Nigeria.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique du Nord maintenant, le Conseil de sécurité de l'ONU se penche à huis clos ce vendredi sur la situation humanitaire en Libye après plus d'un mois d'offensive militaire infructueuse des troupes du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est du pays, pour s'emparer du contrôle de Tripoli. La réunion a été demandée par le Royaume-Uni. Le maréchal Khalifa Haftar a reçu hier le soutien du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi lors de sa deuxième visite au Caire en moins d'un mois. Son rival, Fayez al-Sarraj, premier ministre du GNA, le gouvernement libyen d'Union nationale dont le siège est à Tripoli, était lui en tournée européenne. Plus de détails avec Abdourahman Dia.
Le porte-parole de la présidence égyptienne, Bassam Radi, a déclaré que le président Sisi a affirmé le soutien de l'Égypte aux efforts de Khalifa Haftar dans la lutte contre le terrorisme et les milices extrémistes afin de parvenir à la sécurité et la stabilité en Libye. De son côté, le maréchal Haftar, dont la dernière visite au Caire remonte au 14 avril, a dénoncé l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures libyennes. Sa visite dans la capitale égyptienne intervient après une tournée en Europe de son rival Fayez al-Sarraj, premier ministre du GNA. À Rome, à Berlin, puis à Paris et Londres, M. Sarraj a cherché cette semaine le soutien des Européens contre ce qu'il appelle l'agression de l'armée nationale libyenne de Khalifa Haftar. Les Occidentaux ont rappelé que la situation ne peut être militaire en Libye. Selon l'ONU, les affrontements et les bombardements ont fait au moins 432 morts et plus de 55 000 déplacés depuis l'offensive des troupes de Haftar le 4 avril dernier.
Actualité américaine maintenant, la hausse des droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits chinois décidés par le président Donald Trump est entrée en vigueur aujourd'hui à la première heure, renforçant encore les tensions entre la Chine et les États-Unis alors que les négociations se poursuivent entre les deux pays ici même à Washington. Les produits jusque-là soumis à des droits de douane de 10% sont désormais taxés à hauteur de 25% depuis tôt ce matin. Les précisions d'Idrissa Seloudia.
Parmi les importations concernées figurent des produits chimiques, des matériaux de construction, du mobilier et de l'électronique grand public. La Chine a aussitôt indiqué qu'elle regrettait profondément la décision américaine et qu'elle prendrait des contre-mesures sans les détailler. Le représentant américain au commerce Robert Lighthizer, le secrétaire américain au trésor Steve Mnuchin et le vice-premier ministre chinois Liu Hie se sont rencontrés pendant une heure et demi jeudi à Washington. Ils ont convenu de reprendre leur discussion ce matin, a annoncé un porte-parole de la Maison-Blanche.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.